Au-delà des apparences. Des apparences. Au-delà des apparences, une émission proposée par Sandrine Merck.
Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Au-delà des apparences. Aujourd'hui, Nathanaël Vigneault, que vous commencez à connaître, hein, puisque vous l'avez vu, vous l'avez entendu la première fois pour la découverte un petit peu de Rencontre Rome-Nous, l'association qui fait rencontrer les Roms par le biais de la culture. Puis, ce grand pari de la culture pour trouver la qualité intrinsèque des gens et que les gens s'expriment. Et enfin, l'éducation, c'est-à-dire l'accès à l'école, absolument primordial, dans une sorte de stabilité, je dirais, ordinaire pour beaucoup d'enfants, mais pas pour eux, donc c'est important. Cette fois-ci, on attaque l'antiziganisme. Alors, pour ne pas être complètement négatif dès le départ, parce que quand même, le constat va être très sévère, je pense qu'il faut effectivement valoriser cette initiative gouvernementale, hein, avec ce plan interministériel de lutte contre le racisme, antiraciste, donc bien sûr, et aujourd'hui aussi anti-tzigani. C'est la première fois en fait que cet ensemble des pratiques racistes institutionnelles a été déclenché. Ça, c'est quand même un événement, je dirais.
C'est une avancée majeure sur le sujet, que les pouvoirs publics et que l'État reconnaissent l'anti-tziganisme et le fassent apparaître noir sur blanc dans le nouveau plan 2023-2026, c'est une avancée énorme.
C'est-à-dire que c'est à la fois pour expliquer le racisme ordinaire, je dirais, mais aussi le racisme institutionnel.
Oui, parce que l'antiziganisme est défini comme un ensemble de pratiques institutionnelles. Donc l'antiziganisme, c'est ce racisme spécifique contre les Roms et les Tziganes. Donc c'est la même chose, c'est juste l'appellation est différente. Et donc ça veut dire que les pouvoirs publics reconnaissent ce racisme spécifique à l'encontre des Roms. On reconnaissait l'antisémitisme, là on reconnaît l'antiziganisme. Donc maintenant à voir comment ce plan va se concrétiser sur le terrain, comment on lutte concrètement contre l'antiziganisme, mais en tout cas symboliquement il apparaît et c'est une avancée majeure.
C'est-à-dire alors, parce que qu'est-ce que c'est tous ces racismes institutionnels concrètement?
L'antiziganisme, il a une histoire. C'est complexe. Il a une histoire qui a mené, par exemple, au camp d'internement pendant la guerre. Parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais il y a eu le génocide des Juifs, mais il y a aussi eu le génocide des Tziganes. Auprès de 500 000 Tziganes ont été tués dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était moins le cas en France, mais en France, on a créé les camps d'internement, qui est une création de l'administration française. Et les camps d'internement ont été terminés en 1946, donc soit après la fin de la guerre. En 1912, par exemple, on a instauré le carnet anthropométrique, qui n'a été supprimé qu'en 2017. Donc ça veut dire que pendant plus d'un siècle, on a contrôlé les nomades, les tziganes, alors que la plupart étaient français. Donc il y a une discrimination. Donc l'antiziganisme, ce n'est pas que ça, mais il s'est aussi inscrit dans cette histoire politique institutionnelle, orchestrée par l'État. Toute appartenance politique, enfin tout gouvernement confondu, là-dessus, il n'y a pas de gauche-droite, ça a traversé le temps.
Oui, c'est pratique, hein, ça c'est la seule unité, elle est dans l'anti-tziganisme.
Exactement, parce que c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, l'anti-tziganisme, quand vous faites des enquêtes d'opinion ou des enquêtes avec la Commission consultative des droits de l'homme, l'anti-tziganisme, c'est le racisme le plus toléré et le plus accepté. Donc les indices de tolérance à l'égard des Roms, parce que c'est comme ça qu'ils posent la question, c'est presque un Français sur deux. Donc ça veut dire qu'un Français sur deux ne tolère pas les Roms. Ce qui est quand même assez énorme et assez inquiétant.
Alors pourquoi? Est-ce qu'on a des explications là-dessus? C'est l'amalgame, évidemment, avec
l'amalgame,
ce qu'on voit.
Les clichés, puis effectivement...
C'est ce que déplorent complètement les habitants des bidonvilles quand on y rentre. C'est qu'on ne voit quoi? Que des poubelles qui sont elles-mêmes alimentées par des gens qui viennent s'en servir comme d'une déchetterie, de l'extérieur, je veux dire. Donc tout ça se développe à une vitesse tellement rapide que finalement...
Et puis tout ça augmenté en fait qu'on ne parle que du négatif dans les médias, qu'on ne voit que ce qu'on a envie de voir aussi.
Et qu'il existe aussi beaucoup de négatifs et de trafic et de beaucoup de choses également, parce que la pauvreté engendre aussi toutes sortes de...
Bien sûr, de dérives et de...
Bah, bien sûr,
mais
qu'on ne parle que de celle-là.
On ne parle que de celle-là, et c'est par exemple tout l'enjeu de l'association, à travers l'implication des jeunes, et c'est de montrer du positif et de montrer d'autres histoires, sans tomber dans l'angélisme toujours, parce qu'on n'est pas là non plus pour ça, et on est conscient des difficultés, mais c'est toujours d'avoir un discours objectif sur le positif et le négatif. Donc l'antiziganisme, c'est tout ça, et le quotidien de l'association et des jeunes, puisqu'on est une association quand même de premiers concernés, avec des jeunes salariés qui sont premiers concernés, donc des jeunes roms du bidonville de la Flambert, qui sont acteurs de cette lutte contre le racisme. Comment, par leur histoire, par leur parcours, ils vont porter une autre histoire, un autre discours politique et citoyen.
Alors c'est un petit travail de fourmi, vous me direz de quelle manière il a pris de l'envergure, mais j'ai rencontré Andrei qui donnait des... Qui faisait le tour des collèges ou des lycées, je ne me souviens plus d'ailleurs à quel stade c'était plutôt, les deux, et qui explique à des enfants, mais quasi médusés, ce que c'est qu'être harcelé parce qu'on sent la fumée, parce qu'on est habillé pauvrement, parce qu'on ne parle pas forcément aussi fluidement que les autres, et que, à quel point c'est du décrochage, ça, en fait, c'est du décrochage scolaire. Et on voit toute une classe bouche bée, je dirais presque retourner son chapeau, non ?
Et oui, parce que l'antiziganisme, il est basé sur la méconnaissance. En fait, on ne connaît pas, et c'est toujours pareil. Hein, quand,
tout le temps.
Les Roms font peur avec ce qu'on voit, ce qu'on entend. Ça fait peur. Voilà, on a l'impression que qu'ils ne veulent pas s'intégrer, pour paraphraser un ancien Premier ministre.
Qui ne veulent pas s'intégrer.
Voilà. Oui. Ils n'ont pas vocation à s'intégrer ou à rester en France. Et tout ça est totalement faux. Ça peut arriver, mais c'est des histoires individuelles et des parcours de vie. Et on ne peut pas généraliser comme ça tout un peuple, toute une population à travers un fait divers.
Et quand on met un orteil dans un bidonville,
on
s'en
rend compte.
Incroyablement accueilli. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a franchi le premier barrage des poubelles, j'en reviens à ça parce que franchement, c'est vraiment la poubelle qui est associée au monde du bidonville. C'est l'amoncellement de voitures, qu'on imagine toutes volées, évidemment. C'est cette déchetterie qu'utilisent même les gens de l'extérieur. Et une fois qu'on a franchi ça, une fois qu'on a pataugé dans les cloaques, parce que quand il pleut, évidemment, ce sont des ornières, c'est de la boue, c'est de la gadoue, quand on arrive à rentrer dans une de ces masures faites de briques et de brocs, franchement, c'est impressionnant ce qu'ils arrivent à faire en termes d'habitat. On se retrouve presque dans un petit salon hyper cosy, chaleureux, avec toutes les générations. Et voilà, un accueil magnifique. On est tout de suite invité à déjeuner ou à prendre quelque chose. Voilà, il y a quelque chose de magnifique et qui se partage très, très vite. On est venu chanter, nous, une fois, dans un bidonville avec ma chorale. Mais ça a été un détonateur immédiat. Tout le monde a dansé, chanté en même temps. C'était pour la Pâque orthodoxe.
Oui, mais là, on en revient toujours à la magie de la culture et au... Mais ça, c'est un principe, oui. Ils aiment partager, ils aiment rencontrer. Mais ça n'efface pas, encore une fois, tout le quotidien et toute la difficulté du quotidien. Car effectivement, leur intérieur est cosy, mais l'extérieur, ça reste un bidonville. Parce que c'est le...
Il est cosy de briques et de brocs, hein. C'est-à-dire qu'ils arrivent à en faire quelque chose de très propre et de très joli, mais avec uniquement des choses en récup,
exactement.
Avec des choses qui sont... Oui, c'est leur lieu de vie. Oui.
Parce qu'on parle des poubelles, mais c'est pas un plaisir pour eux d'habiter, c'est pas volontaire, c'est juste que ça renvoie à la gestion des pouvoirs publics des déchets, du ramassage des déchets, et de la considération qu'ont les pouvoirs publics, donc ça renvoie aussi du coup à l'antiziganisme, quelle place on fait pour les habitants d'un bidonville et comment on fait pour résorber les bidonvilles. Et donc ça renvoie encore une fois à cet ensemble de pratiques institutionnelles, c'est comment on considère les habitants des bidonvilles. Et s'il y a beaucoup de poubelles, c'est que les déchets ne sont pas suffisamment ramassés. Voilà. Moi, chez moi, j'ai pas un tas de poubelles et ils consomment pas des déchets 100 fois plus que nous. Oui. Donc, c'est que ça renvoie à quelque chose d'autre qu'il y a des poubelles. Voilà. Ça renvoie à ce que les pouvoirs publics en font aussi.
Alors, les pouvoirs publics ou les administrations ? Alors, aujourd'hui, il y a un antiziganisme d'administration.
Oui.
Bah, lequel, concrètement ? Et est-ce que ça évolue ? Dans le mauvais sens ou dans le bon sens ?
Je dirais dans le bon sens, ça évolue lentement. Mais c'est très difficile d'avoir des avancées, des rendez-vous chez les assistantes sociales, quand on va chez la science sociale et qu'on nous demande 4 fois si les habitants ont vraiment besoin d'un accompagnement social, enfin, le simple fait d'habiter sur un bidonville justifie qu'on aille voir une assistante sociale. Mais c'est compliqué d'ouvrir des droits à la CAF, à la CPAM. Comme par hasard, certains ont perdu le dossier, il faut l'envoyer 3 fois. On a beau leur montrer l'accusé de réception de la Poste, comme quoi ils ont bien reçu le dossier, mais non, ils n'ont jamais reçu le dossier. Certaines CAF qui bloquent les droits parce qu'il faut prouver le droit au séjour, alors que en tant que ressortissants européens, ils n'ont pas besoin de prouver leur droit au séjour. Il y a plein de complexités qui font au quotidien que l'accès aux droits communs est compliqué.
Y compris pour aller à l'école, d'ailleurs. Hein.
Y compris pour aller à l'école.
C'est le premier barrage de la mairie, oui. Par méconnaissance, bien souvent, du personnel.
Exactement,
également,
oui.
Hein, mais
alors
qui demande une paperasserie absolument.
Alors, ce n'est pas le cas à Toulouse.
Non, parce que ce barrage a été franchi.
A été franchi, c'est très facile à Toulouse de scolariser les enfants. Mais il y a clairement des refus de scolarisation dans d'autres communes, notamment en région parisienne, où tant qu'on n'a pas, par exemple, l'attestation de domicile, c'est compliqué.
Et puis, il y a ce fameux racisme d'élite faciès.
Oui, qui est omniprésent. Et moi, je le...
Ce contrôle au faciès, on peut dire.
Oui, mais même d'élite, enfin, c'est... Et moi, je le vois, moi, enfin, quand je sors avec les jeunes autres, je le vois. Et je prends l'exemple, par exemple, d'une directrice d'école, parce que ça m'avait frappé quand elle me l'avait dit. Elle a accompagné des élèves, et elle m'a dit, c'est vrai, j'ai accompagné des jeunes du terrain qui étaient avec moi dans la classe. J'ai vu le regard des contrôleurs TCO et des agents de sécurité TCO. Elle m'a dit que ça m'avait jamais frappé parce que j'avais jamais eu d'élèves comme ça. Mais quand ça m'est arrivé, j'ai vu. Et, voilà. Et ça, c'est le quotidien des enfants et des jeunes et des habitants de la Flambert. C'est, y a un centre commercial à côté, ben voilà, on va fouiller les sacs systématiquement. Voilà, ils sont roms, ben, du coup, délinquants, voleurs. Voilà, c'est un cliché qu'on a.
Alors c'est un cliché et c'est aussi vrai dans d'autres conditions, dans d'autres cas, et ça l'est aussi, y compris pour ces mêmes jeunes d'ailleurs, à une certaine période de leur vie. Donc c'est ça le problème, c'est comment démêler les chevaux quand on est directeur d'un centre commercial, quand on est agent TCO et que on se retrouve aussi face à une délinquance quasi pas quotidienne, mais quand même, eux sont de plein fouet. Donc c'est aussi ça qu'il faut essayer de démêler.
Bien sûr, enfin, nous on a essayé de travailler avec le centre commercial, mais bon, une fin de non-recevoir, c'est qu'ils ont tendance à généraliser. Et encore une fois, on n'est pas là pour nier les problèmes et l'existant, mais nous on est là, on a envie d'être positif et constructif en disant, ok, à partir de ces problèmes, comment on peut travailler ensemble, parce qu'on ne résoudra rien à l'image de l'école, ce qu'on disait la semaine dernière. C'est que sans travail collectif et partenariat, on n'arrivera pas à avancer.
En plus, ça marche hein, dans certains supermarchés, dans grandes surfaces, etc., notamment au Mirail, ça a fonctionné, ce travail collectif a fonctionné pour éloigner la délinquance et recevoir
de manière
beaucoup plus ouverte.
Mais pour qui dit travail collectif, dit volonté collective. Et nous, enfin, contre nous, on n'y arrivera pas tout seul. Et il faut. Voilà. Donc nous, on est prêts, et c'est notre mission, et ça apaisera tout le monde en ressortira gagnant. Mais il faut avoir cette volonté collective.
Bon, et ben on va vous suivre, on va continuer, on va vous aider, et on va terminer en beauté ces 4 émissions avec Taraf de Haidoux, donc le grand orchestre tzigane de Roumanie. À la semaine prochaine.